minutes. À tout de suite. 9h30 à Paris et Cotonou, 8h30 en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Pierre Boudias.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. 20 ans de prison requis contre l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, accusé de blanchiment d'argent durant son mandat. Ses avocats dénoncent l'incompétence de la cour. Les parties civiles balayent l'argumentaire. La RDC ferme les vannes du cobalt. Kinshasa suspend pour 4 mois l'exportation de ce minerai rare, indispensable aux batteries rechargeables. Les autorités entendent peser sur des prix en baisse, vous l'entendrez. L'opposition camerounaise avance en ordre dispersé. Plus d'une dizaine de candidats déjà déclarés à l'approche de la présidentielle. L'option d'une figure commune face au pouvoir semble s'éloigner. Et puis Cyril Ramaphosa met en garde contre une érosion du multilatéralisme. Les mots du président sud-africain à l'ouverture du sommet des banques mondiales de développement au Cap. Une réunion dans un contexte de désengagement américain. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz risque gros dans son procès en appel pour détournement de fonds publics et enrichissement illicite durant son mandat. Le procureur général a requis hier une peine de 20 ans de prison contre l'ancien chef d'État, peine bien plus lourde que les 5 ans de détention dont il avait écopé en première instance. C'était en décembre. Du côté de la défense, on continue à réfuter ces accusations et à en remettre en cause la compétence de la cour pour juger l'ex-président. Des arguments balayés par Maître Lo Gormo, avocat de la partie civil. Il est au micro de Paul Lorgerie. Il dénonce un système Aziz.
Cette question de l'incompétence a été réglée déjà depuis le premier juge. Je rappelle que là, on est en instance d'appel. L'enjeu du débat, c'est comment cet enrichissement illicite du chef de l'État s'est déroulé, dès lors que les déclarations qu'il avait faites n'ont rien à voir avec les biens qui ont été saisis. Et donc, l'explication qu'il avait donnée de cet enrichissement, étant que ce sont des chefs d'État étrangers, sans qu'ils donnent des noms, ni les conditions, ni pourquoi ils ont donné cet argent-là, c'est cela l'élément essentiel de l'accusation. Plus maintenant, le blanchiment, c'est-à-dire le fait qu'il ait reçu cet argent, qu'il ait pu le réinsérer dans les circuits sans passer par la Banque centrale, quand même qu'il y ait la moindre transparence sur la manière dont cet argent-là a pu accéder au territoire national, sans parler évidemment du fait que des marchés publics ont été faits à son instigation et qui ont favorisé des personnes de son entourage immédiat. Donc, toute chose qui montre qu'il a fait trafic d'influence. Il y avait un véritable système Aziz de prise des biens de l'État au service exclusif de sa famille, ou de sa parenté.
Maître Lo Gormo, et aucune date de verdict n'a pour le moment été donnée. Les avocats de la défense s'exprimeront à leur tour la semaine prochaine. Au Mali maintenant, au moins 9 personnes présentées comme des partisans de l'imam Mahmoud Diko ont été inculpées pour attroupement illégal et jetées en prison à Bamako. Il leur est reproché d'être sortis le 14 février dans les rues de la capitale pour participer à l'accueil du leader religieux qui n'est plus rentré au Mali. Correspondance régionale de Serge Daniel.
Dans l'affaire, ils sont 10 Maliens arrêtés. Parmi eux, un vieillard finalement libéré. Les 9 autres personnes sont inculpées pour attroupement illégal et jetées à la maison d'arrêt de Bamako. Présentés comme partisans de l'imam Mahmoud Diko, ils aurait été vu parmi la foule mobilisée pour accueillir le leader religieux opposant à la junte dont le retour au Mali avait été annoncé à tort le 14 février. Un proche d'un des Maliens désormais en prison explique, je cite, « Nous habitons non loin de l'aéroport de Bamako le jour où l'imam devait rentrer. Les forces de l'ordre sont venues jusque dans notre maison pour arrêter mon frère alors qu'il n'était pas à la manifestation. » Fin de citation. Les relations entre Mahmoud Diko et la junte, au début bonnes, sont désormais exécrables. Ils critiquent ouvertement les militaires et ces derniers ont dissous la coordination des mouvements et associations de soutien à l'imam. Depuis plus d'un an, Mahmoud Diko vit à l'extérieur du Mali. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Après les États-Unis, le Royaume-Uni sanctionne le Rwanda. Londres se dit une nouvelle fois préoccupée par la situation dans l'est de la RDC et adopte un train de mesures contre Kigali. Le gouvernement britannique suspend la majorité de ses aides financières, excepté celles à destination des plus démunis. 18 millions d'euros seront également débloqués pour venir en aide aux personnes impactées par le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Une décision regrettable selon Kigali, qui juge non raisonnable de lui demander de faire des compromis avec sa sécurité nationale. De citation. En République démocratique du Congo, l'opposition dénonce l'intolérance politique alors que le pays est donc toujours agressé dans sa façade orientale par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Dimanche dernier, une matinée politique du parti ADD Congo de la coalition Lamouka formée autour de Martin Fayoulou a été stoppée par un assaut d'hommes munis d'armes blanches dans un quartier industriel de la capitale. Les auteurs sont identifiés comme militants de la Force du Progrès, un mouvement proche du parti présidentiel UDP. On parle d'une vingtaine de blessés sans intervention de la police. Écoutez, Jean-Félix Sangaï, il est le secrétaire exécutif de la coalition Lamouka.
Ils avaient des couteaux, des machettes, des marteaux, tout ce qui était tranchant. Ils ont blessé beaucoup de membres. 24 personnes sont hospitalisées. Le président fédéral de ADD Congo qui est porté disparu. Il y a deux personnes qui sont en train de vivre maintenant en clandestinité. La police qui interdirait, qui s'opposerait, qui protégerait cette milice de l'UDPS appelée Force du Progrès. Comme le procureur de la Cour pénale internationale est ici, nous voulons saisir cette opportunité pour lui demander s'il pouvait inscrire sur la liste des groupes armés qui terrorisent la population à travers le pays, qu'il inscrive sur cette liste la Force du Progrès et la Brigade spéciale de l'UDPS, qui sont des chevilles ouvrières qui veulent vraiment anéantir, étouffer la démocratie. Nous ne le laisserons jamais faire.
Jean-Félix Sangaï était face à la presse hier à Kinshasa. L'opposition camerounaise, cette fois, elle continue de se morceler. Vendredi, Tomei Nondam Djoya, la présidente de l'UDC, a annoncé sa candidature à la présidence de la République. Scrutin qui doit se tenir cette année. La maire de la ville de Foumbané, dans l'ouest du pays, rejoint ainsi la dizaine de figures d'opposition et les quelques personnalités de la société civile qui briguent également la présidence. Un temps évoqué par les leaders de l'opposition, l'hypothèse d'une candidature unique face à celle du pouvoir semble donc avoir du plomb dans l'aile. Correspondance de Polycarpe Essomba.
Maurice Kamtodji a merci Cabral Libi pour le compte du PCRN à Kérémouna au nom du parti Univers et dont aussi Tomei Nondam Djoya pour l'UDC. Tous ces leaders et d'autres sont des candidats déclarés à l'élection présidentielle d'octobre 2025. S'ils doivent encore passer le tamis des validations par ELECAM, l'organe en charge des processus électoraux au Cameroun, à l'évidence, c'est en rang dispersé que l'opposition camerounaise avance vers cette élection présidentielle. En décembre 2023, lors de la convention du MRC au cours de laquelle la candidature de Maurice Kamto avait été annoncée, l'opinion publique apprenait aussi la naissance d'une coalition, l'Alliance politique pour le changement. Cette coalition devait agréger partis politiques et organisations de la société civile autour du leader du MRC, mais deux ans plus tard, l'identité de ses membres reste mystérieuse. Dans la foulée, une autre coalition sortait des fonds baptismaux, l'Alliance pour la transition politique, avec les mêmes intentions, trouver le candidat le plus consensuel dans les rangs de l'opposition. Mais à peine était-elle annoncée que certains des membres ont fait défection. L'idée d'une candidature unique de l'opposition était alors définitivement enterrée, pas tout à fait selon quelques indiscrétions. L'idée serait aujourd'hui d'attendre de voir les candidatures qui seront retenues par ELECAM et de choisir parmi les leaders admis celui qui aurait le plus de chances de vaincre le candidat du pouvoir. Polycarpe Essomba, Yaoundé, RFI.
Tentative de médiation régionale en Guinée-Bissau. Une délégation de la CDAO a rencontré hier les leaders politiques du pays. Objectif, tenter d'apaiser les tensions alors que le président Oumaro Sissoko Embalo a fixé les élections générales au 30 novembre. L'opposition conteste la fin de son mandat prévu jeudi et exige qu'il ne soit plus reconnu comme représentant légitime. La mission de la CDAO restera jusqu'à vendredi pour tenter de favoriser un consensus. Et puis l'érosion du multilatéralisme pose une menace à la croissance et à la stabilité mondiale. Ce sont les mots du président sud-africain Cyril Ramaphosa à l'ouverture de la 5e édition du sommet Finance en commun qui a lieu au Cap. Top départ de 3 jours de sommet entre les différentes banques de développement du monde entier. Ces banques qui prêtent à des États pour mettre en place des projets de santé, d'éducation ou encore de lutte contre le changement climatique. Un sommet sous le thème de la croissance inclusive, du développement durable et du changement climatique, événement co-organisé par la Banque de développement d'Afrique australe, l'Agence française de développement et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Les précisions de Valentin Hugues.
Plus de 500 banques publiques de développement se retrouvent pour 3 jours de sommet. Un chiffre à retenir, ensemble ces banques pèsent plus de 2000 milliards d'investissements annuels à travers le monde pour des projets entre autres d'éradication de la pauvreté, de lutte contre la faim, de santé ou d'éducation. Ce sommet, c'est donc l'occasion pour ces banques d'échanger et de renforcer leur partenariat avec un mot d'ordre, la durabilité. Comment atteindre la croissance inclusive, lutter contre le changement climatique, mieux investir dans les infrastructures? Voici quelques questions qui seront posées pendant ces 3 jours. Un événement avec des séances plénières, des conférences, mais aussi des discussions privées ou des signatures d'accords. Le continent africain sera évidemment au cœur des échanges. Pour l'Agence française de développement, c'est la moitié de ses investissements. Et selon le directeur général de la Banque de développement de l'Afrique du Sud, Boitumelo Mosako, le sommet doit répondre aux défis urgents de l'Afrique. Dans un contexte d'arrêt des aides américaines et de G20, Forum économique mondial présidé cette année pour la première fois par un pays africain, l'Afrique du Sud. Valentin Hugues, Le Cap, RFI.
Et cette rencontre, comme celle des ministres des Affaires étrangères la semaine passée, se tient en l'absence du principal représentant des États-Unis. Absence sur fond de désengagement de l'Agence américaine de développement, l'USAID. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la suite d'appels sur l'actualité. Juan Gomez depuis Cotonou ce mercredi.